Je m'appelle Jean-Paul Kimonio, je suis chercheur. J'ai travaillé en même temps sur les causes de la participation populaire dans le génocide, d'une part, mais ensuite j'ai aussi travaillé sur le processus de reconstruction au Rwanda. Et ces deux travaux ont donné, ont fait l'objet de deux publications, Rwanda, un génocide populaire, et second, le livre, c'est Rwanda demain. Voilà. S'agissant de la résistance de la communauté musulmane, c'est un sujet qui n'est pas très bien connu. Et même au Rwanda, on n'en parle pas beaucoup, sauf juste à la fin du génocide, les gens ont remarqué que beaucoup de rescapés se convertissaient à l'islam. Et en fait, ils le faisaient parce que c'était un acte de reconnaissance aussi du fait que beaucoup de communautés musulmanes ont aidé les Tutsis qui étaient poursuivis à l'époque. En fait, d'abord, un petit background historique sur le positionnement politique et social de la communauté musulmane. La communauté musulmane a été alliée au mouvement nationaliste qui voulait l'indépendance, notamment à l'UNAR et à la monarchie, qui elle aussi voulait l'indépendance à la fin des années 50. Et étant donné que finalement la Belgique avait octroyé l'indépendance à un parti extrémiste, parmi nous tous, d'une part, mais d'autre part aussi du fait que le Rwanda, l'Église catholique avait une très forte influence au Rwanda à l'époque et pendant très longtemps, les musulmans ont été ostracisés. Il y a quelques éléments, par exemple, même durant la période coloniale, les musulmans, par exemple, n'avaient pas le droit d'acheter des terres. Donc, ce qui fait que quasiment la quasi-totalité des musulmans, des communautés musulmanes au Rwanda ont évolué dans des centres urbains. Butare, Rwamagana et Tiangugu en particulier. Et Ruango un petit peu. Un autre élément aussi qu'il faut prendre en considération pour comprendre un petit peu leur résistance, c'est aussi le fait que les musulmans sont des commerçants. Et en tant que commerçants, il y avait un certain nombre de musulmans qui avaient quand même certains moyens dans les années 60, à la fin des années 70 et 80, d'une part. Et d'autre part aussi, il y avait une espèce de camp de regroupement pas très loin de Kigali, à une cinquantaine de kilomètres de Kigali, qui s'appelle Nyamata, la région de Nyamata. Et dans cette région-là, les Tutsis expulsés de Rwenguéli, donc dans le nord du pays, en particulier Gisenyi un petit peu, et dans d'autres parties du pays, ont été concentrés à Nyamata au début des années 60. Et c'était une espèce de camp de concentration, parce que les gens ne pouvaient pas sortir de là, d'une part, et d'autre part aussi, les Tutsis Nyamata étaient sous un régime de contre-insurgency. Donc, ils étaient tenus en, comme ça, sous contrôle et surveillés et brimés. Et donc, il y avait cette concentration de population Tutsi dans pas très loin de Kigali, et une concentration Tutsi qui était extrêmement pauvre à l'époque. Et donc, ce qui s'est passé au fil des années 70 et 80 et 90, beaucoup de musulmans ont épousé des femmes tutsis de Nyamata. Ce qui fait que, au bout du compte, au milieu des années 90, ou alors au début des années 90, il y avait un certain niveau de mixité entre musulmans et jeunes femmes, femmes tutsis, notamment du fait de ce processus de gens venant chercher des femmes à Nyamata. Et donc, quand l'extrémisme a commencé à vraiment s'exacerber, dans les années 92-93, les communautés musulmanes ont fait des pressions sur leur mufti, donc leur chef, en disant « Vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas laisser les choses comme cela ». Et notamment, les musulmans, on doit prendre une position par rapport à ce qui est en train de se passer. Et nous ne voulons pas rentrer dans l'extrémisme dans lequel nous voyons le pays sombrer. Et à cause des pressions de la communauté, le mufti a édicté une fatwa. Et dans cette fatwa, il expliquait, il disait que l'extrémisme ethnique était haram. et donc interdisait aux musulmans de participer à l'extrémisme anti-Tutsi. Mais en même temps, ce qui est un peu ironique, c'est que ce mufti était lui-même très proche du pouvoir, et notamment des chefs inéraoui. Voilà. Donc il a fait à son corps défendant. Et donc, quand le génocide a commencé, la plupart des communautés musulmanes ont refusé de participer au massacre, d'une part, mais d'autre part aussi, la plupart des communautés musulmanes ont aussi protégé les Tutsis qui étaient proches d'elles. À Niamey-Rambo, par exemple, beaucoup de Tutsis sont venus et sont réfugiés dans Bidugo, qui est vraiment le quartier, un des plus grands quartiers musulmans, le plus densément musulman. Et les jeunes musulmans se sont mis aux alentours de Bidugo avec des machettes humaines. Ils ont dit, celui qui passe ici, il faudra voir qu'il passe par nous. Et donc, les Niamey les ont laissés tranquilles. Voilà. Et cela s'est passé dans différentes communautés à travers le pays. Ça s'est passé à Ourango en particulier. Ça s'est passé dans un faubourg de Kigali où les communautés musulmanes se sont battues pendant des jours et des jours. C'est-à-dire qu'elles se sont battues contre des énergies pour sauver leur propre Tutsi, je dirais. Mais les Tutsis qu'ils sauvaient, ce n'était pas des Tutsis de la communauté. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié d'expliquer, c'est que quand on devient musulman, on perd son identité ethnique. On devient un soi, on devient musulman. Voilà. Et donc, tout ce qui le défendait, ce n'était pas des Tutsis musulmans, c'était des Tutsis qui étaient aux alentours à cause de cette fatwa. Et donc, il y a les fortes résistances, ça a été à Bilbao, donc à Boutaré, à Kigali, dans le faubourg de Kigali. À Boutaré, il y a eu un peu moins de résistance des musulmans, mais ils n'ont pas participé au génocide. Ils sont retenus, mais n'ont pas non plus beaucoup aidé les Tutsis. À Kiangougou, c'est là où peut-être ça a eu le plus de participation de jeunes musulmans dans le génocide, mais ils le faisaient à titre individuel, et non pas sous la bannière de la communauté. Et maintenant, à Rwamagana, il y a une très forte résistance, et beaucoup de Tutsis ont aussi pu être sauvés là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable par rapport à ça? La seule institution qui a pris une position claire et unanime, c'est la communauté musulmane.
Un immense merci, c'est vraiment intéressant. En termes de, est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes sauvées par les communautés musulmanes, ou est-ce que la recherche actuelle ne permet pas de le savoir?
Non, la recherche actuelle ne permet pas de le savoir. Et en fait, il n'y a pas encore eu de recherche véritablement sérieuse qui s'est faite sur le positionnement de la communauté musulmane.
Écoutez, vraiment, c'est passionnant. Je vous remercie énormément pour votre intervention, M. Kimani.
Je vous en prie.